Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois d'avril. Et voilà, une heure pour parler des mobilisations, des actions et de tout ce qui touche autour des droits humains, comme depuis des années sur l'antenne de Principe Actif, deux fois par mois le mardi. Et pour l'émission de ce soir et pour l'animer avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Christian qui était déjà venu à l'émission, mais ça fait bien longtemps. On est bien content de l'avoir avec nous ce soir.
Et je suis bien content d'être avec vous aussi.
Voilà.
Bonsoir.
Donc que des contents avec vous. De la chance quand même.
C'est ça. Et donc, pour les différents sujets qu'on va aborder ce soir, on va vous parler des élections en France, puisque c'était dimanche dernier. Donc effectivement, il y a un communiqué d'Amnesty suite aux résultats de ces élections qu'on va vous lire. Il y a également tout un dossier sur la contestation anti-guerre en Ukraine,
pacifique.
Mais qui a lieu en Russie. Et c'est vrai que les médias n'en parlent pas beaucoup. Ils nous parlent beaucoup, les médias classiques nous parlent beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, ce qui est normal, mais assez peu des contestations qui ont lieu en Russie. Et il y en a. Donc on va vous parler plus de cela. Et puis on va vous parler aussi du dernier rapport du GIEC et des droits humains. C'est Christian qui va vous en parler. Et puis plein d'autres sujets. Donc surtout, ne quittez pas l'antenne avant 20h, puisqu'on est en direct avec vous jusqu'à 20h. Donc dimanche dernier, effectivement, a eu lieu le deuxième tour des élections présidentielles. Et à cette occasion-là, Amnesty a publié le communiqué suivant. Donc je vais vous lire. À l'issue de sa réélection face à une candidature dont le programme, incompatible avec les engagements internationaux de la France, laissait craindre une régression sans précédent du respect des droits humains dans le pays, le président Emmanuel Macron sera confronté pour son second mandat à des défis cruciaux dans des contextes nationaux et internationaux incertains. Amnesty International France sera vigilante et exigeante sur le respect des droits humains qui ne doivent jamais être sacrifiés au bénéfice d'intérêts économiques ou stratégiques. Le premier quinquennat n'ayant pas été exemplaire sur les droits humains, nous appelons solennellement le président de la République, réélu pour un second mandat, à faire en sorte que le second le soit. Nous serons particulièrement vigilants et exigeants pour que les politiques menées par le président, en France comme à l'international, soient respectueuses des droits fondamentaux et du droit international. Nous souhaitons dès à présent engager un dialogue constructif autour d'un certain nombre de demandes. Promouvoir le respect du droit international et la protection des populations civiles. Tout d'abord, alors que la collecte des preuves et de potentiels crimes internationaux est engagée en Ukraine et que plusieurs États européens ont récemment pu juger des criminels de guerre syriens au nom de la compétence universelle, la loi en France comporte toujours des verrous restreignant très fortement les possibilités de poursuite par ces juridictions. Oui, ça fait référence, je fais une petite parenthèse, au fait que la compétence de la Cour pénale internationale en France est restreinte par des mesures restrictives de la loi française qu'Amnesty demande depuis des années qu'elle soit supprimée. Ces mesures restrictives, bien sûr. Il est temps de rompre avec une législation ambiguë et d'effectuer les adaptations nécessaires pour se donner tous les moyens juridiques de juger en France les auteurs présumés de crimes internationaux. Par ailleurs, la France doit cesser les ventes d'armes à destination de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, des pays engagés dans une coalition soupçonnée de crimes de guerre au Yémen. Alors que le traité sur le commerce des armes interdit les transferts dès lors qu'il existe un risque majeur que soit commise de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, il est temps que la France mette un terme à l'opacité de ses ventes d'armes et instaure un réel contrôle parlementaire. D'autre part, nous demandons que les 200 enfants français détenus en Syrie au mépris de toutes les règles de droit puissent être rapatriés sans délai, ce vers quoi s'acheminent de plus en plus d'États européens. j'ouvre une deuxième petite parenthèse.
Je pense que tu vas en parler cette émission.
Dans la dernière partie de l'émission, comme tu dis, Edith, effectivement, je vais en parler tout à l'heure. Respecter le droit des personnes exilées. Si nous saluons la manière dont ces dernières semaines en France, les réfugiés ukrainiens ont été accueillis, dans les discours comme dans les actes, la situation des personnes exilées s'est toutefois dégradée ces 5 dernières années dans l'Hexagone, notamment dans le Calaisis et à la frontière avec l'Italie. Que ce soit sur son territoire, dans le cadre européen et international, ou en lien avec ses accords avec le Royaume-Uni, nous appelons la France à ne pas considérer les personnes qui fuient les conflits et les persécutions comme des flux migratoires irréguliers, entre guillemets, et à leur donner accès à la protection à laquelle elles ont droit au titre des engagements internationaux de la France, dont le respect de la Convention de Genève. Lutter contre les discriminations. Constatant l'inaction des autorités françaises dans la lutte contre les contrôles d'identité discriminatoires, 6 ONG, dont Amnesty International France, saisissaient le Conseil d'État le 22 juillet dernier afin que la justice contraigne l'État à agir. Le président réélu doit absolument prendre la mesure des conséquences désastreuses de telles discriminations systémiques et entamer une réforme en profondeur des pratiques policières. Nous lui demandons par ailleurs de s'engager à abroger les mesures que nous avons dénoncées dans les lois lutte contre le terrorisme et renseignement et celles confortant les principes de la République parce qu'elles favorisent un amalgame dangereux entre islam et terrorisme et comportent des risques d'application discriminatoire à l'encontre des personnes musulmanes. Renouer avec le droit de manifester pacifiquement. Les 5 dernières années ont été marquées par des atteintes à la liberté de manifester pacifiquement en France. Non seulement les manifestants ont été exposés à un usage excessif de la force des opérations de maintien de l'ordre, mais les autorités ont aussi instrumentalisé des lois contraires au droit international pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des personnes n'ayant commis aucune violence. Ainsi, nous demandons une réforme structurelle des stratégies de maintien de l'ordre afin de favoriser des logiques de concertation et de désescalade plutôt que de confrontation et de répression. Les dispositions trop vagues de certaines lois doivent être abrogées car elles ouvrent la voie à l'arbitraire. Enfin, le recours aux grenades assourdissantes et de désencerclement doit être interdit et l'usage des LBD 40 suspendu. Autre sujet de préoccupation croissante, le futur gouvernement devra également veiller à ce que les progrès technologiques soient rigoureusement encadrés pour ne pas faire basculer nos sociétés dans la surveillance de masse. Nous resterons par exemple vigilants sur le développement de l'utilisation des drones par les forces de l'ordre pour surveiller les manifestations. Nous continuons par ailleurs à demander l'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins d'identification car elle est incompatible avec le respect du droit à la vie privée. Et enfin, pour le climat, Christian va vous en parler tout à l'heure, mais pour le climat, 3 ans pour agir. Le président Macron ne doit pas oublier que la France a été condamnée le 14 octobre 2021 par le tribunal administratif de Paris pour son inaction climatique. Le GIEC continue d'alerter sur les conséquences catastrophiques d'un réchauffement climatique qui ne serait pas contenu dans la limite de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Aussi, le président réélu devra tout faire pour que la France atteigne la neutralité carbone à l'horizon 2050 et pour peser sur la scène internationale en faveur d'une action immédiate et d'une ampleur planétaire face à une urgence climatique qui menace l'humanité tout entière. Voilà donc ce communiqué qui fait un peu le point, effectivement, sur cette élection et qui rappelle les grands thèmes sur lesquels l'Amnesty France donc sera très, très vigilante par rapport à l'action du gouvernement qui ne manquera pas d'être nommé prochainement.
Voilà. Du travail, de la surveillance, on va vous en parler et on va suivre toutes ces affaires comme on l'a fait déjà pendant le premier mandat de président Macron.
C'est ça.
Même si ce n'était pas forcément tout ce qui nous allait.
Oui, c'est sûr. Non, on a eu l'occasion effectivement de contester un certain nombre de décisions. Je me souviens aussi de discussions qu'on a eues pendant ce quinquennat avec le député aussi, M. Gouttefard, le député d'Evreux, sur un certain nombre de désaccords, entre autres par rapport à la loi, comment elle s'appelait cette loi, sur l'utilisation de par les forces de l'ordre par rapport au droit de manifester, enfin etc. Surveillance globale, voilà, la loi de surveillance globale et les dérives policières qui en découlaient. Et là-dessus, on n'était pas du tout d'accord avec le point de vue de monsieur le député.
Et ben, il y a des élections bientôt.
C'est
pour
ça.
Nommer les députés pour cette mandature, donc
c'est ça.
Chacun choisit, va-t-on dire.
Donc voilà, bon, on va quitter la France pour aller dans un pays qui fait aussi la une de l'actualité en ce moment, mais pour des raisons bien dramatiques. Et c'est la Russie et son intervention effectivement en Ukraine. Alors comme je vous disais dans l'introduction de l'émission, on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, ce qui est normal, des crimes de guerre commis par l'armée russe, enfin etc., etc., et de l'agression tout à fait inqualifiable de la Russie, enfin du gouvernement russe par rapport à la population civile ukrainienne. Mais on ne parle pas beaucoup des contestations qui ont lieu en Russie. Et donc, il y a un article...
Bah, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est compliqué d'aller avoir des infos de là-bas. Donc, mieux si Amnesty nous a donné des infos.
Alors, je vais commencer quand même par une mauvaise nouvelle, malgré tout, par rapport à ça. C'est pour vous informer que le 8 avril, si je ne m'abuse pas, le 8 avril, c'est ça, le bureau d'Amnesty International à Moscou, qui existait depuis 22 ans, a été fermé par les autorités russes. Voilà. Alors, je vais vous lire juste le début du communiqué qui est paru à ce sujet. Donc nous le craignons, c'est arrivé. Les autorités russes ont fermé notre bureau à Moscou. Le prix à payer pour avoir documenté les violations des droits humains en Russie qui vont de l'implacable répression du Kremlin au possible crime de guerre en Ukraine. Le 8 avril 22, donc cette année, notre bureau, celui de Human Rights Watch et de 13 autres ONG, ont été fermés en Russie. Le motif avancé par les autorités est le suivant, violation de la législation russe. Extraordinaire comme motivation. Mais la réalité est la suivante, le Kremlin ferme notre bureau en raison de notre travail de défense des droits humains. Après les journalistes indépendants, les militants et les ONG russes de défense des droits humains, les autorités s'en prennent aux organisations internationales. Bon, le communiqué continue en disant que ce n'est pas parce que nos bureaux sont fermés que l'action d'Amnesty en Russie s'arrêtera, bien au contraire, mais évidemment pendant un certain temps ça ne va pas nous faciliter la tâche malgré tout. Alors donc, pour en venir à ce que je voulais vous dire, il y a effectivement pas mal de contestations qui ont lieu à l'heure actuelle en Russie contre la guerre et qui sont toutes violemment réprimées. Et Amnesty dit, plus de 15 400 manifestants pacifiques ont été arrêtés en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Les arrestations sont massives, immédiates, presque surréalistes. Pour la seule journée du 6 mars, 5000 personnes ont été arrêtées dans 69 villes russes. Alors, les motifs pour lesquels les gens, effectivement, sont arrêtés. Les images des arrestations qui nous sont parvenues de Russie sont choquantes. Porter des ballons aux couleurs de l'Ukraine égale arrestation. Écrire « Non à la guerre dans la neige » égale arrestation. Applaudir ou passer à côté d'une manifestation égale arrestation. Détourner une pancarte en écrivant deux mots, en russe hein, bien sûr, deux mots en référence au slogan « Niet Voin », je ne parle pas russe, mais enfin qui signifie « non à la guerre », donc c'est, apparemment c'est un jeu de mots en russe, « arrestation ». Et le dernier, quand même dans la série, le plus ahurissant, « tenir une pancarte blanche sans aucun message de protestation, arrestation ». Les autorités ont lancé une véritable chasse aux sorcières en instrumentalisant le système judiciaire russe pour poursuivre les manifestations anti-guerre. Donc effectivement, maintenant, il y a une loi qui permet d'aller, quand on est arrêté pour avoir même dit qu'il y avait une guerre en Ukraine ou que l'opération de ce qui se passait en Ukraine n'était pas une opération militaire spéciale, pour employer les termes de M. Poutine, on risque jusqu'à 15 ans de prison pour avoir dit cela. Donc évidemment, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune liberté effectivement en Russie par rapport à cette possibilité-là. Ce qui n'empêche pas que malgré tout, les gens ont quand même des informations et continuent effectivement à se mobiliser pour
avec courage.
Voilà.
Et idées en plus, parce que quand on voit tout ce qu'ils peuvent faire, c'est assez futé quand même.
Oui, tout à fait. Donc il est dit aussi dans le communiqué que le montant des amendes, par exemple, a explosé. Il est passé de 2000 roubles, 54 euros, en 2012, à 300 000 roubles, 409 euros, en 2021. 409 euros, quand on connaît le montant des salaires en Russie, c'est une somme importante, effectivement. Donc, alors, ce que dit aussi Amnesty plus loin dans son communiqué, c'est que malgré cette terreur, on voit aujourd'hui des personnes qui descendent dans la rue. Ça en dit long sur le fait que l'usure du pouvoir est bien là et que cette envie universelle d'un meilleur respect des droits humains et des libertés est là, elle aussi. Voilà. Les autorités russes veulent instiller la peur au sein de la population. En muselant l'expression de toute opinion anti-guerre, le Kremlin veut donner l'impression que la résistance n'existe pas. Mais elle existe. Le mouvement anti-guerre en Russie se poursuit malgré l'adoption de restrictions draconiennes, comme je le disais, et malgré une violente réponse policière. Les féministes russes jouent un rôle très actif dans le mouvement anti-guerre. Et à propos des féministes russes, voilà, mon petit doigt m'a dit que Edith, effectivement, avait des choses à vous dire par rapport à cette action des femmes en Russie contre la guerre. Oui, c'est à toi.
Je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples, mais non.
Non, le communiqué est beaucoup plus long, j'ai fait un résumé très court. Mais bon.
Voilà, mais de toute manière, donc moi, je vais effectivement vous parler donc, d'Alexandra Stokchilenko, qui a été arrêtée à Saint-Pétersbourg. C'est une militante qui a remplacé des étiquettes de prix dans un supermarché par des slogans pacifiques. C'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment pas mal d'imagination. Malheureusement, elle est en détention provisoire. C'est une artiste, Alexandra, une musicienne qui chante des chansons pacifiques. Elle a été arrêtée le 11 avril, soumise à un interrogatoire jusqu'à 3h du matin le lendemain. Elle a ensuite été inculpée de discréditer les forces armées russes et placée en détention provisoire jusqu'au 1er juin. Et elle risque, comme le disait Didier tout à l'heure, jusqu'à 10 ans de prison. Alors, selon le ministère public, les activités militantes menées par Alexandra Stokchilenko dans un supermarché le 31 mars étaient un acte d'hostilité politique qui a diffusé de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Et l'audience du tribunal s'est tenue à huis clos pour préserver le secret de l'enquête et garantir la sécurité des témoins. Selon l'avocat d'Alexandra, celle-ci a été signalée à la police par un client du supermarché. Voilà, on peut imaginer un peu ce qui peut se passer aussi dans les situations sociales en Russie. Alors, qu'est-ce que c'est cette résistance pacifiste féministe ? C'est un mouvement qui a été fondé le 25 février, le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ce mouvement vise à renforcer les initiatives pacifiques en mettant en place un réseau de groupes féministes critiques à l'égard du conflit. Donc le remplacement des étiquettes de prix dans un supermarché est l'une de ses actions. Et ce que peut en dire Ella Rossmann, donc elle, on connaît son nom, c'est l'une des rares figures publiques du mouvement. Elle dit « Dès le début de la guerre, nous nous sommes rapidement organisés et nous avons lancé un appel soulignant que la guerre est contrainte à tous les objectifs du mouvement féministe. Les sympathisants du mouvement résistante féministe anti-guerre utilisent des outils de campagne visuelle, par exemple des tracts ou des graffitis pacifiques. Elle tamponne également des slogans hostiles à la guerre sur les billets de banque, imprime des articles des médias indépendants interdits qui restent inaccessibles en Russie. Les membres du mouvement ont mis en place une ligne téléphonique de soutien psychologique pour les personnes qui militent contre la guerre et créé une fondation anti-guerre qui vient aux aides aux personnes licenciées ou expulsées des universités en raison de leur opposition à la guerre. Le 4 avril, ce mouvement a fait savoir qu'il avait installé 500 croix de bois dans 41 villes à la mémoire des victimes civiles de la guerre et qu'au moins 3000 personnes soutenant le mouvement étaient descendues dans la rue avec des slogans pacifiques sur leurs vêtements, une autre forme de militantisme connue sous le nom de piquet silencieux. Alors, il y a pourtant, comme le dit Didier, de lourdes représailles et au moins 100 militantes ont été arrêtées, placé en détention, fouillé et menacé par les autorités. Yevgenia Isaïvlava, une artiste de Saint-Pétersbourg, a été condamnée à une amende de 45 000 roubles. Alors, c'est encore plus que tu disais, ça fait 530 $ des États-Unis, détenue pendant 8 jours après avoir été inculpée de hooliganisme pour ses performances. Une autre artiste, elle, a été arrêtée le 2 avril après avoir attaché des petits personnages en papier tenant des pancartes anti-guerre aussi à des étiquettes de prix dans un supermarché. Alors, sur la chaîne Telegram, les militantes ont déclaré « En remplaçant quelque chose de très banal par quelque chose de différent, d'inhabituel, nous montrons qu'il n'y a pas un seul endroit dans notre pays qui ne soit touché par la guerre et nous ne laissons pas les gens se contenter de fermer les yeux sur ce qui se passe. Eh bien, nous, on vous le dit pour que ça soit connu aussi en France. »
Tout à fait. Et juste pour terminer sur ce petit chapitre consacré à la résistance de la population civile en Russie, je voulais vous signaler effectivement que sur le site d'Amnesty, vous tapez le mot Russie et vous allez tomber sans problème sur l'action. Vous avez la possibilité d'interpeller l'ambassade de Russie à Paris de deux façons, soit en envoyant un message sur Twitter. Le message, il est prémâché hein, par Amnesty France, bien
sûr. Vous le transmettez.
Voilà. Soit envoyer un mail. Là aussi, le mail est rédigé. Vous pouvez le compléter. Mais enfin, le mail est déjà rédigé par Amnesty pour envoyer aussi à l'ambassade de Russie. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein, effectivement, parce que bon, même si c'est l'ambassade de Russie à Paris, de toute façon, les informations remontent quand même à Moscou. Et d'autre part, il y a aussi la possibilité de se prendre en photo soi-même avec une pancarte non à la guerre, enfin, etc., ou non à la répression en Russie. Et d'envoyer ça sur les réseaux sociaux en mettant en copie Amnesty France. Donc c'est aussi une possibilité. Voilà. Donc vous avez ces actions-là à faire. N'hésitez pas à les faire. Plus on sera nombreux, effectivement, plus ça risquera d'avoir un impact. Et pour terminer sur le chapitre, le 22 avril, donc il y a très très peu de temps, vous avez les photos aussi sur le site, une délégation de militants et de permanents d'Amnesty France à Paris qui sont allés en délégation devant l'ambassade de Russie, qui ont essayé de remettre effectivement la lettre de Sommel à monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur l'a refusé. Mais Amnesty, effectivement, du coup, a envoyé le mail par la poste. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu rentrer, mais ils ont fait cette manifestation et vous avez les photos sur le site. Donc, surtout, n'hésitez pas à joindre votre voix. Encore une fois, plus on sera nombreux à manifester notre soutien aux opposants russes contre la guerre en Ukraine et aux exactions de monsieur Poutine, plus on aura effectivement d'impact pour
c'est
que les choses changent.
C'est le principe d'Amnesty, c'est de dénoncer et de soutenir ce qui se bouge.
Tout à fait. Bon, on va passer à la première pause musicale parce qu'il est largement l'heure, et on se retrouve juste après.
Un enfant avec un fusil trop grand. Un enfant marche lentement, à pas hésitant, au milieu du sang et du silence et du silence. Enfant, mais apparemment c'est plus un enfant. Depuis très longtemps, très longtemps, trop longtemps, bientôt 10 ans. T'as jamais joué au voleur, au gendarme qui a peur, à l'insouciance. Petit, je voudrais regarder les filles et voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes. Tu vois dans leurs yeux des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés et de temps en temps du cristal de sang. Quand vas-tu mourir? Fusil trop grand. Un enfant, mais apparemment c'est plus un enfant. Le tuer comme un grand, comme à la guerre, évidemment. Bientôt 10 ans, il y a des pays tranquilles et des jardins dans les villes de l'argent. Petit, tu sais pas jouer aux billes, tu revends les balles en cuir. Pour le moment, tu vis au milieu des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés et de temps en temps du cristal de sang. son con. Quand vas-tu mourir? Un enfant trop vieux, un enfant trop dur. Un enfant, bien évidemment, peut tuer comme un grand. Et comme c'est la guerre, fais sa ronde, fais sa ronde. Et dans 10 ans, si jamais y a plus l'enfer, si jamais y a plus le fer, le feu, le sang, petit, tu raccrocheras ton fusil comme un cauchemar qu'on oublie. Apparemment, petit, tu joueras peut-être au voleur et les gendarmes auront peur de l'insolence. Petit, tu feras danser les filles pour voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes. Mais au fond des yeux, des éclairs de feu, des tons déchirés par les barbelés, et de temps en temps, du cristal de sang. Que vas-tu devenir?
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. Et maintenant, c'est Christian, donc on a le plaisir de retrouver aujourd'hui, qui va nous parler d'écologie, de GIEC et de droits humains, si j'ai bien compris.
Tout à fait, tout à fait. Et je vais donc vous résumer une déclaration d'Amnesty International à propos de ce rapport. Le GIEC, petit rappel, pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait les sigles, c'est le groupe d'experts gouvernemental sur l'évolution du climat et sur les conséquences, bien sûr, du changement climatique. Sur l'adaptation et la vulnérabilité, fournit des preuves accablantes contre l'inaction des gouvernements. Leur incapacité à réduire rapidement les émissions mène tout droit à des modifications irréversibles des conditions nécessaires à la vie humaine, à la nature et aux écosystèmes. Donc, plus que jamais, il est clair que ces échecs constituent des violations graves aux droits humains. Donc, dans son rapport, le GIEC fournit des éléments détaillés, beaucoup plus détaillés qu'avant, et qui montrent comment la marginalisation et la discrimination exacerbent les dommages liés au changement climatique. Il reconnaît explicitement les effets particuliers du changement climatique causés par des schémas d'inégalité historiques et persistants comme le colonialisme, en particulier pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales. Ce rapport montre qu'entre 2010 et 2020, le nombre de morts causées par les inondations, les sécheresses et les tempêtes a été 15 fois plus élevé dans les régions hautement vulnérables que dans les régions présentant une faible vulnérabilité au changement climatique. Les gouvernements ont lu et approuvé la synthèse du groupe du GIEC. Ils n'ont aucune excuse. Ils ont pleinement conscience des pertes auxquelles est confrontée l'humanité et des menaces qui nous attendent s'ils ne changent pas de cap. Ils doivent consulter les groupes touchés et adopter de toute urgence des politiques et des changements législatifs visant une sortie rapide des combustibles fossiles, mais aussi mener à bien une transformation rapide et juste de l'utilisation de l'énergie en vue d'éliminer les discriminations, les oppressions et les inégalités, et de protéger et de faire progresser les droits des travailleurs et travailleuses des populations qui dépendent d'économies fondées sur les combustibles fossiles, des peuples autochtones et de toutes les personnes dont les droits humains sont menacés. Les pays riches doivent augmenter nettement leur contribution financière en matière de climat au niveau mondial, notamment en s'engageant à financer l'indemnisation des pertes et préjudices subis par les personnes touchées. Chaque jour où les États n'agissent pas, repoussent le moment d'agir, ou pire, adoptent des mesures qui nous font reculer, ils prennent consciemment la décision de lier les droits humains des populations. Le rapport montre les graves conséquences du changement climatique causé par les activités nomades. Le GIEC prévoyait en 2014, et elles sont beaucoup plus graves que ce qu'ils avaient prévu il y a donc maintenant 8 ans. Notamment en perte de vie, en moyens de subsistance et de biodiversité. Ces conséquences climatiques nuisent fortement à la capacité d'exercer ses droits fondamentaux. Le droit à l'alimentation est menacé par le changement climatique, qui ralentit au niveau mondial la croissance de la productivité agricole. Le droit à l'eau est grandement compromis. La moitié de la population mondiale étant gravement affectée par la sécheresse, pour des raisons climatiques ou non, au moins une partie de l'année. Les droits à la vie et à la santé sont également touchés, ce qui illustre le nombre croissant de personnes qui meurent et qui souffrent de périodes de canicule ou de maladies d'origine alimentaire ou hydrique en lien avec le changement climatique. Le rapport met en avant des faits que les personnes en première ligne du changement climatique pointent depuis des années. Ceux qui sont marginalisés, discriminés, exclus de la prise de décision sont ceux qui souffrent le plus et qui subiront les conséquences les plus graves à l'avenir. Les effets du changement climatique ne sont pas pressentis de la même manière pour tout le monde et il existe des zones sensibles de la vulnérabilité humaine, particulièrement en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans les petits états insulaires, en développement et en Arctique. Les conséquences observées des vagues de chaleur dans les zones urbaines touchent surtout les habitants marginalisés d'un point de vue économique et social, comme ceux qui vivent dans les quartiers précaires. Quand on se tourne vers l'avenir, le rapport établit des projections terrifiantes sur ce qui arrivera si le monde ne change pas de cap. Extinction d'espèces, destruction d'écosystèmes et des régions entières qui seront pratiquement inhabitables, car impropres à l'agriculture, ou à cause de l'humidité et du stress thermique qui empêchent le corps humain de se refroidir. Une hausse des températures de 1,5 degré, comme le disait Didier tout à l'heure, augmenterait le risque de perte simultanée de récolte de maïs dans les principales régions productrices de denrées alimentaires, provoquant une hausse du prix des produits alimentaires, réduisant les revenus des ménages et causant des situations de malnutrition, à moins qu'une adaptation significative ne s'opère, surtout dans les régions tropicales. D'ici 2050, plus de 250 000 personnes mourraient chaque année à cause de la chaleur, de la sous-nutrition, du paludisme et de maladies causées par le changement climatique. Avec un réchauffement de 1,5 degré, entre 9% et 18% de la population mondiale seront régulièrement exposés à des périodes de canicule, au moins une fois tous les 5 ans, ce taux d'exposition triplant si le réchauffement atteint les 2 degrés. Si la hausse des températures atteint les 2 degrés, le nombre de jours d'exposition à la canicule serait susceptible d'augmenter de manière exponentielle, passant de 15 millions à 170 milliards de jours personne. L'Inde et l'Afrique subsaharienne seraient parmi les régions les plus affectées. Je me permets une petite parenthèse personnelle. J'entendais tout à l'heure qu'en Inde, la température moyenne était maintenant de 33 degrés. Oui. 33 degrés, ce qui fait que les plus marginaux, ceux qui vivent dans la rue et qui vivent de leurs produits, de ce qu'ils vendent, sont considérablement atteints. À moyen terme, environ 1 milliard d'habitants des villes et localités de faible altitude, y compris sur les petites îles, seraient exposées à des risques climatiques spécifiques aux zones côtières. La montée du niveau de la mer est une menace pour certaines îles et littoraux de faible altitude. En revanche, des mesures d'adaptation ne prenant pas en compte les répercussions néfastes sur différents groupes peuvent entraîner une maladaptation, une augmentation de l'exposition au risque, une aggravation de la marginalisation de certains groupes et une exacerbation des inégalités. A l'inverse, le rapport préconise des mesures d'adaptation concis comme des solutions multisectorielles luttant contre les inégalités sociales, comme celles qui intègrent l'adaptation au climat dans les programmes de protection sociale ou comme les approches de conservation et de restauration des forêts qui respectent pleinement les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Il recommande des initiatives de planification inclusive fondées sur les valeurs culturelles, les connaissances autochtones et les savoirs locaux. La déclaration finale du rapport ne pourrait être plus claire. Les preuves scientifiques accumulées sont sans équivoque. Le changement climatique constitue une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète. Tout nouveau retard dans l'action mondiale concertée et anticipée concernant l'adaptation et l'atténuation nous fera manquer la fenêtre qui, très courte, en se refermant rapidement, nous permet d'assurer un avenir vivable et durable pour tous.
Merci Christian, effectivement, pour ce texte qui nous résume effectivement la position du GIEC et ses conséquences en termes de droits humains. Et moi, ça m'a inspiré juste un petit commentaire personnel. On parlait tout au début d'émission des élections présidentielles. La candidate qui n'a pas été élue dimanche dernier dans son intervention.
Je ne vois pas de qui tu veux parler.
Dans son débat avec Emmanuel Macron, a dit, j'ai entendu l'extrait, hein, je n'ai pas tout écouté, mais j'ai entendu l'extrait par rapport au changement climatique en disant qu'il ne fallait pas céder à l'écologie punitive, a-t-elle dit, et qu'il fallait ralentir toutes les mesures, toutes les mesures visant effectivement à lutter contre les changements climatiques. Alors dire ça, quand on est candidate à une élection importante comme la présidence de la République, c'est tout simplement condamner des centaines de milliers de personnes à mort.
On pourrait dire que c'est caresser ses électeurs dans le sens du poil, peut-être.
Oui,
aussi
bien sûr, effectivement. Mais ce sont des propos absolument irresponsables, ce qui n'empêchera pas, comme on le disait au début de l'émission, qu'Amnesty sera très vigilante sur l'inaction du gouvernement actuel vis-à-vis du changement climatique aussi.
Et on est à Évreux. Et oui. Qu'est-ce qui va se passer bientôt au Tangram?
Ah oui, d'accord.
Le festival Anthropocène.
J'avais pas suivi ton
voilà, mais non,
ton
parce que je cherche quelque chose de positif quand
oui,
même
t'as raison,
à mettre.
T'as raison.
Donc ce festival, il a lieu du... Alors, Didier qui a écrit du 14... Non, du 29 avril.
Dès que j'écris mal, c'est ça?
Oui, au 14-15 mai, j'arrive pas trop à lire. Mais
du 29 avril.
Voilà, mais il va y avoir, pour suivre sur ce que vient de nous dire Christian, Jean Jouzel, qui a fait partie du GIEC aussi, qui va venir faire une conférence, une intervention, et plein d'autres choses intéressantes. Mais pour ceux qui veulent avoir ou discuter sur le climat, ben voilà, venez, c'est à Évreux.
Tu nous rappelles la date de la conférence de M. Jouzel?
Alors, Jean Jouzel, c'est le 14 mai, je pense, à 17h30 au théâtre.
Au théâtre. Et voilà. Donc, dans ce festival qui s'appelle Anthropocène, qui commence à la fin de la semaine, vous avez tous les renseignements, tout le programme et tous les renseignements. Il y a beaucoup de conférences,
d'activités.
C'est
une belle affiche.
Voilà. Vous avez tout le programme sur le site du Tangram, www.letangram.com. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce programme et à participer à tout ce que nous proposent nos amis du Tangram dans le cadre de ce festival, on rappelle, qui s'appelle Anthropocène et qui a lieu très bientôt. Sans transition, je crois qu'Élie avait tout à
eh
fait autre chose à nous dire.
Je change carrément de pays. Ben, effectivement, Christian, tu me disais qu'il allait faire très très chaud et que ça allait ne pas s'arranger si on ne prend pas des mesures. Bien, il y a un pays où il fait toujours très très chaud et s'il fait encore plus très très chaud que très très chaud, ça va être assez terrible, c'est le Qatar. Alors, vous voyez bien le Qatar, ça vous dit quelque chose 2022,
je crois qu'il y a un événement sportif.
Oui, on vous en a parlé régulièrement. Je pense que c'est souvent moi d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle, on va dire, pour s'arrêter là. Donc, à 7 mois de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, Amnesty, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce dossier, en particulier pour les conditions de vie des gens qui ont construit toutes ces infrastructures. Bon, ne me demandez pas pourquoi on va faire du foot dans un pays où il fait chaud, où il y a du sable et où il faut mettre plein d'infrastructures. Ça, c'est un autre débat. Mais les gens... Les migrants qui sont venus travailler au Qatar ont subi des conditions de vie déplorables. Bon, tous ceux qui ont construit les stades, ben maintenant ils sont partis. Le Qatar a essayé un petit peu d'augmenter, enfin de faire quelques petites lois pour... Si vous vous rappelez, au début, ils prenaient les passeports des migrants et les migrants étaient carrément... on va dire un rôle de travailleur esclavagiste à peu près, hein. C'était esclave plutôt qu'esclavagiste. Et bien là, Amnesty vient de sortir un rapport, le titre est « Ils nous prennent pour des machines ». Donc là, c'est ce qu'on a recueilli, C'est des témoignages de gardes, parce que maintenant les travailleurs migrants, ce sont eux qui vont faire les gardes dans les stades, dans les hôtels, dans les infrastructures, et encore plus quand il y aura ce fameux, cette fameuse Coupe du Monde. Et ben eux, ils sont très mécontents aussi de leurs conditions de travail. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Donc le titre, ils nous prennent pour des machines. Voilà un témoignage. Ils travaillent 12 heures par jour, 7 jours par semaine, parfois pendant des mois ou des années, sans un seul jour de repos. Pour prendre leur jour de repos, comme la loi qatari les autorise, ces travailleurs doivent obtenir l'autorisation expresse de leur employeur. Et cette demande est souvent refusée. Et le prendre sans autorisation peut donner lieu à une retenue sur leur salaire, une pratique relevant clairement de la notion de travail forcé. Alors voici un témoignage. La première année, c'est celle de la survie des plus forts, résume un travailleur. Milton, arrivé du Kenya, a travaillé comme agent de sécurité dans un hôtel jusqu'en 2021. Ses horaires, de 6h30 à 20h, sans un seul jour de repos pendant des mois. Abdul, lui, originaire du Bangladesh, a quant à lui travaillé comme gardien au Qatar de 2018 à 2021. Et lui aussi n'a pas eu un seul jour de repos en 3 ans. Quant à Zek, venu d'Ouganda, il a dû suivre une formation d'une semaine en amont du tournoi de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA pour lequel il travaillait en février 2021. Ses séances de formation de 8 heures commençaient immédiatement après sa journée de travail habituelle. Imaginez ce que c'est de faire une journée de travail de 12 heures, puis d'être conduit au centre de formation où vous suivez ensuite une formation pendant 8 heures, toute la soirée. Puis, vous reprenez le travail à 5 heures du matin. Vous dormez 4 heures par nuit et vous recevez votre formation toute la semaine. Ils nous prennent pour 10 machines, dit Zek. Jacob, lui, vient aussi d'Ouganda. Il a travaillé pour une société qui surveillait les voies d'accès au stade Khalifa International et il réceptionnait les livraisons. Il nous a expliqué que prendre une journée de repos obligatoire sans autorisation pouvait donner lieu à une sanction allant jusqu'à 200 rials, soit l'équivalent de plus de 5 jours de travail. Quant à Ben, il a travaillé 18 mois d'affilée sans un jour de repos et il a vu son travail être amputé de 2 jours parce qu'il est tombé malade et qu'il a pris un jour de congé maladie. L'un pour absence et l'autre pour ne pas avoir fourni de certificat médical. Car au Qatar, quand on est malade, c'est à l'employé de fournir un certificat médical. Mais avec les horaires qu'ont les travailleurs migrants, c'est absolument impossible de pouvoir le faire dans les temps et dans les délais. Alors aujourd'hui, après des milliers de personnes mortes sur les chantiers au Qatar, sur les 34 agents que Amnesty a interrogés, une quinzaine ont été affectés à des postes en extérieur, en pleine chaleur, parfois sans abri ou sans eau potable, y compris en plein été, alors que le travail à l'extérieur est censé être restreint à cette période. Le risque représente le stress thermique pour la vie des travailleurs et des travailleuses est pourtant bien réel. Voilà tout ce qui se passe au Qatar actuellement. Alors Amnesty redemande à la fédération de continuer à faire pression sur le Qatar. Il y a une pétition sur le site d'Amnesty que vous pouvez aller signer. Alors, je vous en rappelle le détail et j'aime bien la phrase, c'est « Ramenons la coupe à la raison ».
Oui.
Et donc, vous pouvez aller signer cette pétition pour que la Fédé s'engage plus d'agir et pour que le Qatar continue à faire. Parce qu'après, quand la compétition sera finie, eh bien, il n'y aura aucune possibilité d'avoir des améliorations pour les travailleurs. Voilà, dernier petit point sur le Qatar.
Oui, on en a déjà parlé dans nos émissions du Qatar, mais on en reparlera d'ici la Coupe du Monde qui aura lieu à la fin de l'année, c'est sûr, de toute façon. Et peut-être, on en a parlé au niveau du groupe, mais quand on vous aura l'occasion au printemps de nous voir dans les rues d'Evreux, peut-être, on a évoqué le projet, pour parler du Qatar et faire signer cette pétition, effectivement, auprès du public hébreuicien, donc on en reparlera. Bon, une émission d'Amnesty sans une bonne nouvelle, c'est pas une émission d'Amnesty.
Allez,
qui
Didier,
se respecte.
Allez, bonne nouvelle.
Donc voilà, je vais vous lire effectivement une bonne nouvelle parmi plusieurs qui figurent sur le dernier exemplaire de la chronique. Je rappelle toujours que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France et qui c'est un mensuel qui fourmille d'informations et d'excellents articles sur les droits humains. Oui, oui, il y a Edith qui me fait signe de respecter la pendule à la raison.
Parce que je fais de la publicité, mais vous connaissez la chronique depuis le temps qu'on vous en parle.
Mais c'est normal d'en parler à chaque fois.
Allez, bonne nouvelle.
Ça se passe en Thaïlande. Bangkok libère 2 militants pro-démocratie. Anon Numpa, 37 ans, figure du mouvement pro-démocratie en Thaïlande et inculpé d'insultes à la monarchie, a été libéré le 28 février après plus de 200 jours en détention. Tant que le pays ne sera pas démocratique, les prisons seront la maison des militants, a-t-il courageusement déclaré à sa sortie. Un autre dirigeant de la contestation, Parit Chiwarak, qui répondait de 23 accusations de lèse-majesté, a été libéré sous caution. Il aura passé près de 200 jours en prison. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, la libération de deux militants pro-démocratie en Thaïlande, et on va donc vous passer quelques minutes
de musique.
On n'aura pas le temps d'écouter tout le morceau qu'on avait déjà chanté la dernière fois.
On va encore faire des réflexions.
Mais je vous en passe quelques secondes et on se retrouve après.
Alors c'est par petits morceaux la musique pour Amnesty. C'est sur trois émissions, vous avez la totalité.
C'est ça.
Once upon a time, you dressed so fine. You even threw the bums a dime in your prime. Didn't you? Hell, I people call and say, beware, doll, you're bound to fall. But you thought they were wrong. Kidding you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. And look at you now, you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. You know that you only ever used to get